Faites-en un maximum. Voilà. C'est le top niveau. Hein. J'ai pas montré le hockey sur glace, c'est bien aussi. Parfois le foot, c'est pas mal. Bon, j'espérais que Jay soit là, mais bon. Le basket, c'est exceptionnel. Hein. Je n'ai trouvé que cette image. Voilà. Je vais vous parler de ceci ce matin. Émotion et foi, est-ce que ça fait bon ménage? Et je pense que c'est assez explicite, je vais parler de la colère ce matin. Et j'avais trouvé ce petit titre avant d'entamer le sujet. « Si la colère te rend aveugle, sourd et muet, laisse-toi prendre la main par la vie du Christ. » Et quand j'ai choisi de parler de la colère, je me suis rendu compte vraiment que c'était un sujet immense. C'est un mot qui est mentionné vraiment dans la Bible à toutes les sauces. Et j'aurais pu prendre beaucoup d'angles différents, comme par exemple, comment se manifeste la colère de Dieu? Ou est-ce que la colère, c'est légitime? Est-ce que on a le droit d'être rebelle? Mais j'ai plutôt choisi de partir de nous. Et je pense que le point d'approche, c'est qu'on est tous concernés. Personne ne peut dire ici qu'il ne s'est jamais mis en colère. Et dans un premier temps, je vais parler des hommes. Et ensuite seulement, je vais dire, tiens, qu'est-ce que la vie de Jésus nous dit à ce sujet-là? Alors vous avez vu une manifestation très explosive, très spéciale, spectaculaire de la colère. C'est pas de cette colère-là que je veux parler. C'est pas de la montée d'adrénaline, c'est pas du coup de sang. Non. La colère est parfois beaucoup plus rude. Elle prend des formes beaucoup plus cachées. Et c'est de cette colère-là que je veux parler. Et j'ai choisi j'ai cherché et j'ai relevé 4 cas différents qui peuvent nous atteindre. Le premier, c'est un différend à vie. C'est quelque chose qui est irrémédiable. J'ai rencontré dans ma famille une personne qui est malheureusement décédée maintenant et qui a été confrontée à ceci. Sa maman lui a dit, ben voilà, celui que tu veux épouser, moi je n'en veux pas. C'est lui ou c'est moi? Et elle a choisi. Elle a choisi, c'est lui. Et ça a été comme ça pendant 40 ans. Cette maman et cette fille ne se sont plus jamais parlé. Elles se croisaient dans la rue sans se dire un mot, sans même se regarder. La maman est décédée et la fille n'a pas été à son enterrement. Ça, c'est un différend à vie. C'est quelque chose de très rude, de très spectaculaire. À l'opposé, il y a des personnes dont je faisais partie qui faisaient des mini-colères à répétition. Donc il y a des choses qui vous énervent systématiquement. Il suffit d'aller dans une ville, je ne dirais pas Charleroi, mais mettons Marseille pour ne choquer personne. Voilà, les personnes au volant à Marseille, c'est formidable. Vous pouvez pas faire 20 mètres dans un rond-point sans vous faire klaxonner 28 fois. Mais ces mini-colères peuvent être aussi dans la vie quotidienne. Ça peut être avec votre épouse, ça peut être avec vos enfants, ça peut être au boulot. Et souvent, ces mini-colères ont une racine bien plus profonde. Et ce n'est pas sur ce fait-là que les personnes à l'intérieur d'elles sont en colère. La troisième chose, c'est le pardon ou l'absence de pardon. Si vous avez subi dans votre vie quelque chose de grave. Chacun a, je pense, eu malheureusement cette expérience-là une fois qu'on vieillit un peu. Parfois, vous pensez que cette chose grave, vous l'avez réglée. Elle dort. Mais, une fois, sans qu'on s'explique pourquoi, cette chose-là revient. Et c'est l'explosion. Et les personnes de l'entourage ne comprennent pas. Souvent, cette explosion est due à l'absence de pardon. Ou on croit qu'on a pardonné parce qu'on a dit « je te pardonne ». Mais ça suffit pas, parce que la faute était vraiment très grande. Et le quatrième point qui fait des dégâts aussi, je pense, beaucoup plus qu'on ne pense, c'est que une personne a reçu des paroles qui ont blessé. Je vais donner un exemple qui est léger, parce que c'est pas non plus alourdir la prédication. J'étais mangé jeudi chez un ami qui a 80 ans, et par les réseaux sociaux, il a retrouvé un joueur donc avec qui j'ai joué, qui est donc maintenant plus ou moins mon âge, et qui est devenu en France un violoniste de très haut niveau. Et il l'a retrouvé et lui dit « Ah, je suis content de te retrouver. Que de merveilleux souvenirs nous avons eu ensemble. » Et lui a répondu « Oui, j'ai eu des très bons souvenirs sur le banc. » Sur le banc, ça veut dire qu'il n'avait jamais joué avec lui, en fait. Et que, donc, ce qui revient 35 ans après, c'est que j'ai été blessé parce que tu ne m'as pas fait confiance. Je n'ai pas joué. J'ai déjà eu des conversations ici avec plusieurs amis et j'ai senti cette blessure. Un prof. Et bien souvent, peut-être un papa avec son fils, mais bien souvent, la personne qui prononce ces paroles ne sait pas qu'il est en train de blesser. Hein, ce monsieur qui a 80 ans me racontait ça. J'ai dit, mais tu vois, c'est un gars, je suis passé à côté de lui en fait. Et je le sais pas. Et je ne le sais que 35 ans plus tard. Or dans ce cas-là, c'est pas vraiment grave, c'est que du sport. Mais parfois, on a des blessures qui restent. Voilà. C'est de cette colère-là que je voudrais parler. Parce qu'elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus prégnante dans nos vies. Si je prends l'homme à l'échelle de l'homme, quelles sont les solutions? Celle qu'on rencontre le plus, c'est une non-solution. On se tait. On se tait, on la cache, on l'enfouit, on met sa propre vie au-dessus et on espère que ça va s'arrêter. On espère, mais ça ne s'arrête pas. Mais bien souvent, c'est ça. Il y a une espèce d'omerta autour de cette raison, de cette colère. À l'opposé de ça, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de parler. Vous ne pouvez pas rencontrer cette personne-là sans qu'elle vous raconte pourquoi elle est en colère à cause de celui-là. Et vous lui parlez, vous recevez ses propos, même avec amour, et elle, parfois elle comprend, et parfois elle dit « mais oui, c'est vrai, tu as raison, mais 2 ans après, vous revenez, ça recommence. » C'est la résolution de la colère par les pics. Un pic très bien, et puis je replonge au fond. Et la troisième chose, qui est parfois une très bonne chose, c'est que on dit « mais voilà, j'ai vraiment un problème. » Et je vais essayer de le résoudre par moi-même en allant chez un psy. Ma fille appartenant à cette catégorie, je vais rien dire de mal, sinon ça va être des discussions sans fin toute la journée, mais non, je le fais aussi. Et parfois c'est une bonne chose. Vraiment, parfois c'est une bonne chose. Mais, peut-être, grâce à cela, vous avez trouvé en vous ce qui ne va pas. Mais bien souvent, le problème, c'est que l'autre n'est pas là. Et peut-être que l'autre avec qui vous avez eu des problèmes, lui n'avance pas. Ou au contraire, il va dans une autre direction. Et bien souvent, vous dites, même si vous avez trouvé quelque chose, vous êtes devant un mur. Et là, ça coince. Et parfois, malheureusement, on replonge. si on prend ces trois solutions, qui sont les trois solutions à l'échelle humaine, quelles conséquences pour nous? Quelles conséquences pour moi? Et là, il y en a beaucoup. Et je ne veux pas faire de la prédication un cours de psychologie. Ce n'est pas le but du tout. Mais pour moi, j'ai trouvé une petite phrase. On est prisonnier. On est prisonnier dans sa chair. Et, ayant vécu très longtemps loin du Seigneur, et ayant été vraiment colérique, je vais le dire, allez, avouons-le, je me dis, mais quel témoignage! Quel témoignage si maintenant que je suis revenu au Seigneur, je suis le même. Et que je mets en colère toutes les 10 minutes, parce que au boulot, ça ne va pas. Dans mon travail d'instit, j'étais très patient avec les enfants. Et avec mes collègues, j'étais épouvantable parce que j'avais tous des collègues, lents. Je supporte pas ça. Je supporte pas la lenteur au travail et donc ça a été... Je les atomisais très régulièrement. Et j'écris, je me dis, tiens, qu'est-ce que une personne qui n'est pas au Seigneur pourrait me dire? Si tout d'un coup, en sortant d'ici, je me mets en colère avec l'un d'entre vous. Je pense que ça pourrait ressembler à ça. Tu essayes de me convaincre que Dieu existe. Mais excuse-moi, peut-être que j'ai pas tout compris. Quand je te vois, quand je t'entends, je me pose des questions. Est-ce que tu ne devrais pas être en paix? Il paraît que tu as la vie éternelle, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont des mots, des slogans, ou bien c'est un drapeau que tu sors les jours de fête. Pensons à ça. Et donc je crois que la seule solution pour nous que nous pouvons envisager, c'est de dire qu'est-ce que la parole me dit à ce propos-là. Et je n'ai pas, le Seigneur ne m'a pas mis un texte où on parle, est-ce que Jésus s'est mis en colère? Non, le Seigneur m'a dit, il y a la solution. J'ai tout écrit. Cette solution, c'est dans Colossiens 3, les versets 1 à 15. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés, qui pourrait sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout. Et en tous. Christ est tout. Et en tous. Je pense que la partie la plus importante est ici. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. C'est un texte fabuleux, je pense. Et on peut le commenter verset par verset. Mais ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi de partir de ce texte et globalement de plutôt répondre à cette question. Est-ce que le Seigneur a une solution pour moi par rapport à la colère? Et j'ai envisagé 4 points. Le premier, c'est est-ce que la colère, au fond, ce n'est pas simplement un manque de foi? La deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'attacher aux choses d'en haut? La troisième, la fidélité à la promesse. Quand je choisis le baptême, j'ai fait une promesse. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à cette promesse-là? Et le quatrième point, qui sera le plus important, c'est faire sauter les verrous. Et là, je développerai un peu plus ce dernier point. Le premier, notre colère comme manque de foi. Est-ce qu'on comprend bien cette phrase? Je vais peut-être parler d'abord de ça. Si je vous demande, donnez un adjectif pour qualifier le Seigneur. Dans les 3 premiers que vous allez mettre, il y aura Dieu est bon. Ce sera même peut-être le premier qu'on va dire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce que on sera aussi nombreux à croire à cette petite phrase, Dieu est toujours bon? Est-ce que quand c'est la tempête dans ma vie, est-ce que encore plus c'est la tempête dans la vie de quelqu'un que j'aime, qui m'est proche, est-ce que je vais encore dire Dieu est bon? Est-ce que je vais encore croire? Est-ce que Dieu est bon? Je pense que de nombreuses colères devraient passer par le filtre de Dieu, par le filtre de la bonté de Dieu. Et si j'inspecte ma colère, si je l'inspecte en toute honnêteté, à qui j'en veux? À qui j'en veux? À la personne? Bien souvent, c'est à nous-mêmes que nous en voulons. Bien souvent, c'est à nous-mêmes que nous en voulons. Et je trouve que si on ose répondre à cette question, on va pouvoir mettre en parallèle la bonté immuable de Dieu. Parce que le Seigneur, c'est inévitable, il déverse en permanence sa bonté. C'est facile à dire. C'est très facile à dire. Quand j'ai écrit ça, je dis oui, ok. Mais, est-ce que... Je vais dire ça, je me suis mis en colère il y a 2 semaines. J'étais fâché. J'étais fâché avec moi. Pourquoi je me suis fâché? Parce que ma femme n'avait pas la place que je pensais qu'elle devait avoir. Et c'est, je me suis rendu compte, c'est d'autant plus difficile de gérer la colère quand ce n'est pas soi-même qui est en jeu. J'ai demandé pardon, Seigneur, de m'être mis en colère. C'était la première fois depuis 5 ans où j'avais vraiment une réelle colère. Et il fallait ouvrir son capot et mettre cette colère à la lumière de la bonté de Dieu. Dieu est bon, même à ce moment-là. Deuxième point, c'est s'attacher aux choses d'en haut. dans l'extrait, il est mis « Attachez-vous aux réalités d'en haut ». Je pense que parfois, quand on est dans un moment de notre vie difficile, on pense que sa vie est sans solution. J'aime bien penser qu'on est de passage ici, que le Seigneur nous donne seulement cette opportunité de vivre X années sur cette terre. Est-ce que ce passage, ce séjour, je vais le passer à hurler, à me morfondre, à me lamenter sur les comportements de X ou de Y? Il n'est pas parlé ici d'un monde de bisounours au ciel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il nous dit, quand ça va pas bien, attache-toi aux réalités d'en haut. Vivez chaque instant dans la perspective de Dieu. Et là, quand on met ça dans la perspective de Dieu, on va avoir vraiment une barrière contre tous les pièges que vous avez sur la DIA. De nombreuses colères sont à l'intérieur de ces quelques mots. L'appât du gain, le mensonge, l'obsession du plaisir et la religion. J'ai mis la religion formelle. Je me suis éloigné de Dieu tellement on m'a fait manger une image de Dieu qui n'était pas celle qui correspond à ce que Dieu était. Ça met beaucoup en colère. Ça met beaucoup en colère. Et si on met ce qui vit en vous, qui est peut-être un volcan, à la lumière des réalités d'en haut, vous êtes en chemin pour faire sauter les verrous. Le troisième point, c'est la fidélité à la promesse. Je parle beaucoup à mon fils, que j'aime. Toi, je l'ai dit, hein. Je rigole. Il me dit, papa, Facebook, c'est mon outil de travail. Et la raison, dans son travail, c'est vraiment nécessaire. Combien de colères sont nées à propos des rumeurs et des interprétations de messages sur Facebook, de tweets, je pense que c'est comme ça qu'on dit, hein, oui, j'en ai pas, non, de tweets, de SMS ou de mails. Comme si tout d'un coup, ce message que vous lisez sur Facebook, il est animé d'émotions. Que ce message que vous lisez, forcément vous le lisez avec un ton de voix qui correspond à l'état émotionnel que vous avez quand vous le recevez. Oui. Ne dites pas non. J'ai été aussi sur Facebook. Il y a longtemps. Ce n'est pas une question de vous dire vous êtes des andouilles parce que vous êtes sur Facebook. Mais attention. Ce ne sont des mots écrits. Attention à ceux qui vous disent, voilà, tu sais, celui-là, il a dit que, celui-là, il pense que. Pourquoi je vous parle de ça? On n'a jamais eu autant de moyens de communication maintenant. Et on ne sait jamais autant pas parler. On se parle virtuellement. Mais c'est quand même très différent si je parle à Michel en direct, que je vois comment il reçoit ce que je lui dis et comment je reçois ce qu'il me répond. Je vais quand même avoir une impression supplémentaire. Le ton de sa voix, ça va me dire quelque chose. Revêtir l'homme nouveau. Notre conduite, nos interprétations, parce que c'est de ça que je parle, nos interprétations Celui qui reçoit, je vous disais tout à l'heure, celui qui reçoit des paroles qui vous blessent à fond, dites-le. Dites-le. Tu m'as blessé. Si on veut revêtir l'homme nouveau et être fidèle à cette promesse, notre conduite et notre vie doivent refléter l'enseignement du Christ. Nous sommes tous en chemin. Personne ne sera jamais Jésus. Personne. Mais on peut afficher la volonté, la détermination de lui ressembler. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre part. Nous pouvons faire preuve, j'allais dire, d'une volonté infaillible. Mais souvent, vous comme moi, nous plongeons, nous retombons. Parce que ça suffit pas les bonnes intentions. Ça suffit pas les résolutions. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ta vie soit en adéquation avec la vie du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire faire sauter les verrous? Je m'excuse si dans ce que je vais dire maintenant, il y en a qui se sentent, qui sont en difficulté. Parce que mon but n'est pas du tout de stigmatiser. J'ai des blessures autant que vous. Simplement, ces cinq domaines, c'est un chemin. C'est pas un catalogue de ce que vous auriez dû faire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vous donner des outils, nous donner des outils. Parce que j'ai bien été édifié de trouver ces outils dans le passage de Colossiens. Donc, lisez, écoutez, entendez ceci comme un cheminement. Et si vous reliez les cinq domaines, vous allez avoir des solutions pour votre vie. Car ces solutions, ce ne sont pas les miennes, c'est celles de la parole. Tout est écrit. Voilà les cinq. Je veux vous parler de la compassion, du pardon. De l'amour comme guide de notre vie. Je veux parler un peu de la paix du Christ. Ce sont ces trois-là que je veux surtout développer. La compassion. C'est bien plus qu'un sentiment. Quand j'ai lu ça, j'ai repensé directement à la violence de la croix. Sur le fait indiscutable que Dieu est mort pour nous, que Jésus est mort pour nous. Je dis la violence de la croix parce que ça m'a vraiment frappé, moi qui ai été baigné dans une éducation religieuse, que le Christ sur la croix, ça ne me parlait pas. Quand j'ai compris ce que ça voulait dire, ça m'a déchiré. J'ai dit, mais quelle mort! Et il le fait pour toi, pour moi. J'aime pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Est-ce qu'on a une raison légitime de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir de compassion pour un être humain quand on sait ce que Jésus a fait pour nous? Soyons alors honnêtes. Et on peut dire à Dieu, voilà, je suis comme ça, mais je pense que tu as le droit d'avoir aussi un regard sur ma vie et sur ce que je ressens. J'aimerais bien que plus personne, et je vise ma personne en premier, ne dise, ouais, mais tu sais, papa, tu sais, tu comprends, moi c'est pas le même. Moi c'est normal. Deuxième point, laisser l'amour comme guide de notre vie. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de perfection. on est les rois de l'étiquette. On est champion de l'étiquette. Vous allez à la boulangerie, vous allez, vous entrez dans une nouvelle classe. Le prof est chouette ou pas chouette après 5 secondes. L'émission TV que vous regardez, après 3 secondes, oh non, ça c'est con. On est champion de ça, de l'immédiateté, de l'impression. Non, celui-là, en fait, il sourit pas. Un mauvais coucheur. Tout simplement parce que quand vous l'avez vu, il souriait pas. On a été avec Charlotte vendre sa voiture. On a tous les deux dit, oh, j'espère que ce sera ce vendeur-là, il a l'air chouette. On est tous comme ça, tout le temps. Et Jésus, près de qui il s'est arrêté? Relisons les rencontres de Jésus. Et il s'est bien souvent arrêté auprès des plus humbles des plus humbles. Il s'est arrêté auprès de mécréants. Et là, quand on parle d'étiquette, on parle même pas de personnes avec qui on est en colère, hein. Ce sont des personnes normales. Imaginez-vous ce que ça peut être. Est-ce que je peux prendre la gratuité de Jésus dans ma vie? La gratuité, c'est-à-dire que Jésus aime. Jésus t'aime, point. Est-ce que prendre avec soi le manteau de l'amour, c'est pas l'arme la plus préventive pour éradiquer, éliminer toute colère? Essayons. Je dis oui, c'est bien. Mais comment? On a tous, on se connaît bien, on a tous des signaux avant-coureurs de la colère. On sait quand ça monte. Oui, Hervé. Mais moi, avec toi, je serai jamais en colère, j'ai trop peur. Hein. Essayons, quand c'est ça, de mettre l'amour aux commandes, de remettre toutes nos relations dans les mains de Jésus. Commençons par le faire dans la vie quotidienne, dans les petites choses. Et je pense qu'après, on pourra s'attaquer à mes statues, à celles que je n'arrive pas à battre. Parce que le Seigneur, si tu crois qu'il est toujours bon, sera avec toi, même sur les chemins escarpés. Le troisième point, c'est laisser la paix de Christ régner dans ton cœur. Peut-être vous avez des souvenirs qui viennent en vous en m'écoutant, des souvenirs de colère qui viennent de vous ou de colère que vous avez subie. Mon père m'en a mis une fois, et je m'en souviens encore. Et je dis maintenant, si c'était moi qui étais à sa place, je t'en aurais mis plus qu'une. Mais une colère, ça balaye tout. Ça balaye tout. On peut dire des choses horribles quand on est en colère. Alors, oui, on est emporté. Et peut-être que ça, c'est peut-être plus facile de retrouver la paix après ça. Mais c'est beaucoup plus difficile d'être en paix quand votre colère est enfermée. Quand votre colère est un poison qui détruit tout. Quand elle est non déclarée. Je disais, quand elle prend racine dans l'histoire de notre vie. Il y a 2 mois, je parlais de foi, émotion, et j'avais pris le cas de l'enthousiasme. Et je voulais un peu vous choquer en disant, un chrétien triste, ça ne devrait pas exister. C'est une phrase choc. Je n'ai rien à dire de ça. J'ai mes tristesses, comme tout le monde. On a ses failles. La chose que je voulais dire, c'est qu'on doit avoir en soi un socle de joie qui fait que la tristesse ne va pas au fond de qui on est. Il ne peut pas remettre en soi-même en cause cette joie de Dieu. J'ai tellement envie de vous dire aujourd'hui qu'un chrétien en colère, ça colle pas non plus. De nouveau, c'est un chemin, mais Dieu guérit. Croyez ça, croyons ça, Dieu guérit. Laissons-lui toute la place, laissons-le nous envahir de sa paix. Parce que quand vous donnez un réel pardon, quand vous pardonnez tout, un poids s'envole de vous. Et c'est pas une image. Laetitia nous parlait de l'image de la mer qu'elle avait vue de sa dune. J'étais avec Marilyn, ma formidable épouse, où nous avons à la hauteur de nos grands âges, grimper nos kilos, surtout les miens, à 2200 mètres d'altitude. On était parti de 1900, rassurez-vous. Mais, pas 1900 kilos. On parle pas de tonnes. On est arrivé, il y avait un lac de montagne. Donc là, Laetitia, il n'y avait pas de vagues. Il n'y avait pas de bruit. Il y avait des petites fleurs blanches qui ressemblent à des cheveux d'ange qu'on appelle des linaigrettes. Et on était envahi par une chose, la paix de Dieu. Quand tu as connu une fois la paix de Dieu, et j'ai eu la chance de la connaître plusieurs fois, on la reconnaît aussi bien que la colère. Accrochons-nous à la paix de Dieu. Le quatrième point, c'est être reconnaissant de la bonté permanente de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Et le cinquième, c'est garder constamment la parole de Dieu en nous. Je veux vous lire ce texte que j'ai lu parce que je ne vais pas le dire autrement. Je ne vais pas le dire mieux. Chaque fois que la colère prend le dessus, si tu sens en toi un poids dans ta vie dont tu ne connais pas l'origine, s'il existe un pardon que tu ne peux pas donner, que tu ne peux pas exprimer, tu peux faire sauter les verrous, les uns après les autres. Dieu t'offre la solution, mais il ne le fera pas à ta place. Ne crois jamais que la partie est perdue. Cette patience qui nous manque tant dans certaines circonstances de notre vie, Dieu nous la donnera à profusion. Mais il nous faudra l'expérimenter, il nous faudra tomber et tomber encore. Mais Dieu te suit, t'accompagne, te fortifie, t'enseigne, te façonne. Laissons-nous amadouer, laissons-nous nous amadouer. Demandons de l'aide, prions, croyons. Envers et contre tout, c'est une question de foi. Avant de conclure, je voudrais vous donner encore un petit exemple. Mon défaut, un de mes défauts majeurs, je ne vais pas être orgueilleux, je vais dire un des... C'est l'impatience. J'étais d'une impatience incroyable. Et Dieu m'a guéri. Ça a pris 5 ans et j'ai payé cher. Mais il m'a guéri. Et j'ai accepté, mais pas tout de suite. Et avec des hauts et des bas, j'ai accepté de payer le prix. Mais quand le Seigneur m'a eu guéri, quelle joie. Et quand vous sentez cette paix, quand vous sentez cette guérison, les 5 ans, c'était pour moi 1 minute. C'était 1 minute, c'était devenu 1 minute. Et croyez-vous, j'en ai bavé. Laurent sait, j'en ai bavé. Je voudrais conclure. Souvent j'ai dit cette phrase... Moi, je peux travailler avec lui, sans problème. Sans problème. Mais je l'aime pas. Il m'horripile. Il me sort de partout. On peut transférer cette phrase dans beaucoup de domaines de notre vie à des cercles aussi importants que cette église. Est-ce qu'on n'a jamais dit ou pensé... Ah non, ce prédicateur-là, non merci, hein. Non, ça, pompant, hein. ce groupe de musique, ah non, 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 m'en parle pas. Mais les conséquences de ce genre de pensée, et on peut le mettre dans son boulot, dans sa famille, hein. Les conséquences de ce genre de pensée, c'est la construction de murs autour de soi. Vous construisez des murs, nous construisons des murs. Je disais, j'aime bien ce mot, c'est le domaine de la pensée unique, la sienne. Alors vivre comme un chrétien, fidèle à la parole, ce n'est pas bâtir des murailles, c'est construire des ponts, c'est faire preuve de reliance, c'est tendre la main le premier. C'est tendre la main le premier. C'est vivre une vie dominée par l'amour et la joie, loin des conflits et de l'amertume. Alors, pour terminer, je voulais vous laisser juste cette phrase. Je vais vous la lire deux fois. Si je pouvais ne vous laisser que cela ce matin, construisez des ponts, visez, vivez la restauration main dans la main avec le Père. Fais ce pas dans la foi. Laisse fondre toute rancœur au soleil éternel de Dieu. Et tu verras ta vie transformée. Tu seras enfant de Dieu. J'ai eu cette image pendant le culte de m'asseoir près de vous et de vous la relire comme une prière. Seigneur, aide-nous à construire des ponts. Aide-nous à viser, à vivre la restauration, main dans ta main. Seigneur, aide-nous à faire ce pas de foi. Aide-nous à faire ce pas dans la foi. Aide-nous à faire fondre toute rancœur au soleil éternel de Dieu. Nous savons, nous croyons que tu transformeras nos vies. Amen.